2050.
Tu penses que ce serait bien, toi?
Hashtag 2050 le podcast, c'est votre rendez-vous. Chaque semaine, une rencontre, un regard, une vision tournée vers l'avenir. En plus de 20 minutes, mais en moins de 30, c'est 2050 qui se dessine au fil d'une discussion. Hashtag 2050, c'est parti.
Bonjour Raphaël.
Salut Rebecca.
Merci de m'accueillir chez toi pour parler ensemble de cet horizon 2050, à la fois tout proche et très loin.
Absolument.
Une trentaine d'années. Et je sais que le futur, c'est un sujet qui te passionne, auquel tu réfléchis. Et d'abord, je dois dire que tu es entrepreneur. Ton entreprise s'appelle 22e siècle. Présente-la, s'il te plaît.
Alors, 22e siècle, c'est à la fois une plateforme de services et un laboratoire d'expérimentation. Alors, du point de vue de la plateforme de service, c'est de la conception et de l'organisation d'événements, de la recherche de fonds, du design et de la création, beaucoup de graphisme, on a un super designer comme associé dans la société. Et puis, c'est aussi du conseil, on accompagne aussi des structures qui sont ou ont la volonté d'être dans la transition.
Donc toi-même, au quotidien, tu regardes vers le futur.
Absolument.
Ce mot de transition.
Et le laboratoire d'expérimentation, on va aller organiser des événements, parce que c'est un peu la structure pour aller essayer la transition énergétique. On nous parle de transition énergétique, mais allons l'essayer, quoi. Par exemple, on a monté un char pour la technoparade, il n'y avait pas une goutte de pétrole, c'était 24 panneaux solaires, un camion énorme, 38 tonnes, comme les autres. Qui fonctionnait au biogaz, donc potentiellement avec nos poubelles ou les déchets d'une ferme agricole. On a expérimenté le hacking, le tracking sur Internet, la quête de sens. On a expérimenté la participation citoyenne, la démocratie 2.0. D'ailleurs, il me semble que tu étais là. Hein.
C'est la fin qu'on s'est rencontrés à cette occasion. Et donc, d'ailleurs aussi, je ne sais pas si tu y es toujours, mais tu t'es formé à l'Institut des Futurs Souhaitables. Donc là aussi, il y a cette dimension du futur. Et puis là, chez toi, juste en face de nous, il y a deux tableaux avec écrit « We are the future ».
Ouais, c'est une confiance. Mm-hmm. Une confiance. Ça ne veut pas dire que je suis dénué de toute réalité, des données horribles qu'on peut avoir, que ce soit sur... nos écosystèmes, l'économie, la démocratie qui est en berne sérieusement, l'objectif démocratique qu'il faut absolument qu'on améliore, je pense que ça c'est vital en ce moment. En revanche, profondément optimiste sur le fait qu'on a tous les moyens humains et matériels pour ouvrir le champ des possibles au maximum et changer de paradigme.
Alors, pour cet épisode de Hashtag 2050, le podcast, tu avais envie que l'on parle ensemble de créativité. J'ai bien compris avec ce que tu nous as déjà dit que c'est au cœur de tes réflexions, de ton entreprise également. Aujourd'hui, pour toi, la créativité, tu la définis comment? C'est quoi?
Parce que je pense que la créativité, c'est l'essence même de l'humain. L'humain, il n'est pas fait pour bosser à la chaîne, il n'est pas fait pour exécuter des tâches qui sont bêtes. Il est fait pour réfléchir, imaginer, innover, plus qu'innover, créer. Mmh. Et la créativité est au cœur de tout depuis l'essence même de l'humain, de nos origines. Quand on pense préhistoire, à un moment on était à quatre pattes, il y a dû y avoir un changement climatique qui nous est tombé sur le coin de la tête ou une raréfaction des ressources et l'humain il est passé de quatre pattes à deux pattes pour deux raisons fondamentales, c'est économiser de l'énergie, donc marcher plus vite tout en économisant de l'énergie et regarder plus loin quoi. Mmh. Donc là on est exactement à cette période de transition aussi où je pense qu'il est vital qu'on crée pour trouver de nouvelles solutions qui sont souvent moins énergivores, plus justes, qu'on peut mieux partager, ou qui va créer des moments, même une société où on va pouvoir mieux s'épanouir. La créativité, je pense que c'est l'humain. Voilà, l'humain est créatif.
Alors, l'humain est créatif.
Et surtout le français. Pardon.
La créativité, aujourd'hui, en ce début de siècle, ça reste réservé à un cercle restreint, ceux qui ont le temps de se poser pour être créatifs.
Quand on a bossé ensemble sur l'organisation d'Existence, il a fallu se plonger un petit peu dans cette histoire de contrat social. Et pourquoi faire un nouveau contrat social? Pourquoi imaginer le contrat social du 21e siècle? C'est parce que depuis Rousseau, il y a 254 ans, il y a Internet qui est passé par là, mais il y a aussi le fait que les gens ont plus de temps disponible. Plus de temps disponible parce qu'il y a eu des lois sociales qui font que des gens ont des congés payés, parce qu'ils ne bossent pas tous 20 heures par jour comme les petits enfants chinois qui font nos iPhones. On a cette capacité d'avoir du temps pour réfléchir, pour échanger, pour coopérer, pour inventer, pour créer. Donc, oui.
Alors cette créativité, justement, portons-la dans quelques années, en 2050. Tu dis que la créativité, c'est l'essence de l'homme. Alors l'homme, en 2050, comment sera-t-il créatif?
Comment sera-t-il créatif? Alors c'est toujours très difficile d'imaginer ce qu'on sera en 2050. À l'Institut des Futurs Souhaitables, le premier truc qu'on nous a présenté, ce sont des dessins de comment on imaginait l'an 2000 en 1930. Et franchement, la créativité, pour le coup, elle était assez limitée, quoi. À part mettre deux petites antennes dans la tête, la femme, elle était toujours avec un aspirateur, il n'y a pas grand-chose qui changeait, finalement. Et si, c'était assez rigolo, les avions fast-food qui passaient un petit peu le long d'immeuble. Il y a des trucs assez rigolos, mais c'est finalement, on se rend compte que la capacité de se projeter dans le futur, elle est assez difficile. Alors la créativité en 2050, moi je pense qu'elle irrigue tout le monde, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire que le temps disponible dont je parlais juste avant, il est beaucoup plus important encore. C'est-à-dire que on peut imaginer un revenu universel où déjà chaque personne, si elle veut passer son temps à s'occuper, à imaginer, créer, et pas seulement dessiner artistiquement, mais imaginer comment s'occuper un peu mieux des autres, comment se projeter pour aller sur Mars ou gérer mieux son environnement, comment y réfléchir à trouver des sources d'énergie, capter le soleil. En une heure d'ensoleillement sur Terre, on peut fournir l'énergie de toute notre civilisation pendant un an totalement, quoi. Donc là, il y a bien un moment, il va falloir capter cette énergie. Donc je pense que les gens vont être plus à réfléchir, à créer, à améliorer les idées politiques. Comment on fait pour prendre des décisions dans notre société sans frustrer les uns et les autres, en ayant l'impression de construire avec l'autre. Je pense que toutes ces idées, elles sont liées au temps disponible à pouvoir créer.
Ouais, et ce temps disponible, justement, ça veut dire que les gens seront libérés du travail comme on le connaît aujourd'hui.
Très clairement. Moi, je pense que le travail tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est une hérésie, quoi. Mmh. Je veux dire, il y a un artiste qui s'appelle La Canaille. On sent le vécu dans ses clips et dans son flow, c'est de la poésie. Quand il parle des gens qui coupaient, serraient, découpaient, le travail à la chaîne, même dans une entreprise de service, hein, ça n'existera plus, quoi. Je pense que le travail, l'automatisation en règle générale, pas forcément des robots.
Ouais.
Je veux dire, il y a plein de tiers aujourd'hui, que ce soit comptables, avocats, qui eux aussi vont passer à la moulinette de ça, qui seront plus en position de conseiller, donc essayer de créer autour du conseil plutôt que de rédiger des contrats qu'un ordinateur va pouvoir rédiger parfaitement sans se tromper, très bien, et dès l'année prochaine, quoi.
Alors donc, plus de temps libéré par rapport au travail tel qu'on connaît aujourd'hui, mais créer, ça veut dire que pour créer, il faut aussi avoir un socle de connaissances, une érudition, je ne sais pas, une culture. Donc, il y aura aussi plus de place pour l'éducation pour tous, partagée, qui tire tout le monde vers le haut en 2050.
Ah ouais, je pense. L'éducation, là, pareil, c'est complètement à revoir. J'imagine qu'on t'a expliqué à l'école que tes ancêtres c'était des Gaulois, non ? Je pense qu'il y a un moment, tu vois, il y a des choses à changer. Je pense que on voit déjà des choses émerger dans l'éducation, comme souvent en ce moment à notre époque dans les pays du Nord, où bah, les gamins, on va justement travailler plus autour de la créativité. Les faire bosser dans un Fab Lab. Et là, tu te rends compte que le gamin de 10 ans, bah, il te monte un truc, qu'il a plein d'idées, qu'il est hyper créatif et que finalement, toutes ces couches de connaissances qui sont pas très intéressantes, finalement, ça rompt complètement.
Qui sont pas rendues pratiques et expérimentales.
Voilà. Finalement, ça lui casse toute créativité. Alors que le petit bout de chou, tu le lâches dans un Fab Lab, il va te construire des trucs absolument géniaux, des trucs géniaux que moi je penserais pas, quoi. Je pense que dans l'éducation, c'est pareil. Le temps disponible à tous ces gens qui vont pouvoir réfléchir à comment l'éducation tout au long de la vie, comment l'activité va être prise en charge. Je pense qu'il y a tout un aspect aussi intergénérationnel entre les anciens qui ont plein d'expérience mais qui sont un petit peu moins balèzes pour faire un marathon de 40 km et avec un petit jeune qui est hyper dynamique mais bon, qui manque un petit peu peut-être de connaissances, qui pourrait être accompagné un petit peu mieux, juste pour l'emmener déjà au Fab Lab. Gamin, tu le mets pas au milieu des perceuses et des machins, il faut l'accompagner, l'enfant.
Donc, ce que j'entends, c'est que cette créativité, finalement, ça sera un peu le socle de cette société du futur. Tout sera organisé pour promouvoir autant le rapport au travail, le rapport à l'éducation, le rapport aux autres.
Absolument, quoi. C'est Coluche qui disait, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et je ne sais pas si c'était un génie, ce mec, mais quand on écoute ses sketchs aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui résonne grave. Je veux dire, moi je pense qu'en France, on a autour de ce potentiel créatif, on a une carte à jouer, mais juste absolument géniale, quoi.
Alors donc toujours pour rester dans ce futur à la fois proche et lointain, pour que la créativité soit mise au cœur de la société, il faut aussi que, je ne sais pas quelles seront les institutions politiques, je pense que ça fera l'objet de certains épisodes du podcast, de parler plus précisément des institutions politiques, mais ça veut dire que l'organisation politique, administrative de la société reconnaisse la créativité de chacun pour la promouvoir, la porter.
Créativité, à mon avis, c'est synonyme d'épanouissement. Là, les gens, ils ont besoin de quête de sens, ils sont en quête de sens, ils ont besoin de s'épanouir, ils ont besoin de se révéler en tant que personne. Je pense qu'effectivement, l'aspect administratif, ça rejoint un petit peu tout ce que je te disais tout à l'heure, mais c'est l'administration, cette grosse machine... peut être en partie automatisé. Les gens qui sont à l'intérieur de cette administration pourraient devenir des gens vachement plus créatifs aussi dans leur travail, être plus en mode conseil, plutôt que de dire, bon, un formulaire B2, B4, mais tout ça, on automatise. Il y a tout ce temps disponible après qui est laissé à ces gens pour inventer de nouvelles manières de faire participer les citoyens, par exemple. Je pense que ça, c'est valable dans une petite localité, dans un petit territoire, mais aussi à l'échelle de la planète, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il va falloir penser organisation mondiale de l'environnement, de la gestion de notre territoire, quoi, de notre petite boule, quoi.
Alors justement, tu parles de territoire, ça m'intéresse parce que tout à l'heure, tu parlais de transition énergétique et on sait que les réflexions aujourd'hui mènent plutôt vers des solutions qui sont complètement décentralisées, qui sont ancrées dans des territoires avec les habitants. Est-ce que cette créativité, justement, elle sera pas très locale avec des mini-sociétés qui, on sera plus dans un système jacobin à la française, à l'ancienne
Non, effectivement, je pense que la production énergétique, elle sera locale. Ça se réfléchit bêtement. À partir du moment où on envoie de l'électricité faire des milliers de kilomètres, il y a de la déperdition. Donc si c'est local, il y a beaucoup moins de déperdition. Et puis après, il y a l'inspiration mutuelle. Je pense qu'un groupe qui réussit quelque chose va pouvoir inspirer un autre groupe. L'idée, c'est de tirer tout le monde vers le haut. À partir du moment où on n'est plus en guerre et en compétition et qu'on est en mode collaboratif et Le souci de savoir qui fait mieux, on s'en fout. C'est essayer de prendre ce qui se fait de mieux et de l'essaimer.
Mmh. Alors, cette culture du collaboratif qui, dans ce que j'entends, aura pris le dessus, il y a beaucoup de chemin à parcourir. On sent émerger une société du collaboratif, de plus en plus des plateformes citoyennes. Tu travailles pas mal sur les questions de démocratie. Tu disais, 22e siècle, c'est une plateforme aussi de service. Donc, cette logique-là, pour toi, elle est vraiment plus qu'en germe. C'est un mouvement, une lame de fond.
Oui. Bon, le 22e siècle, on s'amuse à l'appeler le booster des porteurs du nouveau monde. Mmh. Et oui, il y a tout un écosystème absolument génial qui naît en France beaucoup. Mmh. Le collaboratif en France est quelque chose qui vraiment est plus qu'en germe, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens que je rencontre et que je suis complètement éberlué, quoi. Je me dis, mais putain, génial ce que vous faites là. Et c'est pas qu'en France, c'est aux États-Unis aussi, c'est dans le nord de l'Europe, c'est chez tous nos voisins, c'est en Afrique, c'est...
Alors, je ne l'ai pas précisé, mais là, on est chez toi à Paris.
Ouais.
Est-ce que ce mouvement collaboratif que tu vois émerger, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui reste très urbain? Ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose... Parce que 36 000 communes en France, la majorité, on est loin de l'urbanité. Donc, est-ce que le mouvement, il est vraiment partagé à l'ensemble des territoires pour aller vers ce mouvement?
Bah, il y a un super exemple, Ferme d'Avenir en ce moment, qui avec Max de Rostolan, Maxime de Rostolan, qui là prépare un tour, le Fat Tour, où ils ont l'intention pour 2017 d'aller visiter 30 communes en France, et j'espère qu'ils vont le refaire l'année d'après, à mon avis c'est leur intention, et encore l'année d'après, pour promouvoir d'autres manières de percevoir et de faire l'agriculture. Alors ça tourne autour de la permaculture, mais pas que, parce qu'après c'est tout un système de pensée. L'alimentation est au cœur de tout ça, évidemment, mais aussi l'énergie. Dans une ferme, tu crées de l'énergie, quoi. Tu crées du méthane, quoi. L'urbain et le rural, finalement, sont hyper connectés. Maxime de Rostolan, il fait des allers-retours Paris, ses bleds, sa ferme. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens comme ça, en fait. Hein.
D'accord, donc pas tant une fracture.
Non, là, on est en train de monter un projet complètement dingue qui s'appelle autour d'une association qui a été créée il y a un mois et demi, qui s'appelle Stade Citoyen. Mmh. Et l'idée, c'est de réunir 80 000 citoyens au Stade de France le 1er avril, qui viendront expérimenter de nouvelles formes de démocratie, mais aussi donc la démocratie du futur, hein, améliorer notre objectif démocratique, hein, où la démocratie en France, c'est 71 ans d'expérience. On est au balbutiement d'un système. Hein. Donc ensuite... pouvoir s'inspirer auprès des acteurs du changement, quoi. Mmh. Des changemakers, comme Maxime de Rostolan, comme ces gens de l'Institut du Futur Souhaitable, comme ces associations type 4D qui travaillent autour de la définition du développement durable,
donc,
comme Simplon, comme...
dans la créativité,
ils inspirent le monde qui est en train de naître pour 2050, mmh. très clairement.
Alors, tu as aussi utilisé le terme de transition. Cette transition à l'horizon 2050, cette transition énergétique notamment, tu as évoqué, elle sera faite. On sera encore dans une phase de plaque mouvante.
La transition, on est en plein dedans et elle va durer un bon moment. Mmh. Parce que c'est mon avis. Hein, Hashtag 2050 version RAF.
C'est ça l'objectif. Chacun me donne sa propre version.
Là, je pense qu'on est vraiment dans une phase de transition qui va durer longtemps parce qu'il y a un phénomène de résilience, d'inertie. Mm-hmm. C'est-à-dire que il y a 200 ans qu'on est rentré dans des révolutions industrielles, numériques et compagnie, et que ça a profondément bouleversé notre société, en bien et aussi en mal, et que toute la partie bénéfique, bah, c'est ce qui entraîne naître aujourd'hui, à mon avis, tout ça, c'est le côté, l'aspect génial de l'émancipation qui a été qui a été provoqué suite à, au fait qu'on ait un peu plus de temps, l'énergie a remplacé les esclavages, etc., etc. Mais en revanche, il y a aussi la destruction de notre environnement. Le changement climatique, c'est pas une blague, malgré ce que disent les copains de Trump. Il suffit juste de le demander aux gens qui vivent sur des îles qui ont déjà été recouvertes, les gens qui vivent au littoral, même aux États-Unis, et qui ont vu leurs baraques déjà dégagées, et tous ceux qui sont sur les prochains mètres, c'est pour les prochaines années. Enfin, le changement climatique, c'est pas une blague. Les espèces vivantes, vont mettre du temps à s'adapter. Un chêne qui est planté dans un milieu tempéré, je suis pas sûr qu'il va vraiment apprécier quelques degrés de plus. Toute cette inertie, elle va rester encore un petit moment. Donc, on est déjà engagé. Il y a cette espèce de vieux monde qui est à bout de souffle, qui va cesser naturellement. Il n'y a même pas besoin de le combattre. Et puis, il y a tous ces porteurs du nouveau monde qui ont déjà enclenché quelque chose, qui va faire naître cette société dès 2017 jusqu'au 2050 et qui sera encore plus belle probablement en 2100, mais il y a beaucoup de gens qui vont rester sur le carreau, quoi, ça c'est clair. Et les réfugiés écologiques, je crois que cette année ont dépassé en nombre les réfugiés de guerre. Je sais plus où est-ce que j'ai vu cette stat, mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens? Il va bien falloir un moment qu'on...
Il va falloir être créatif.
Il va falloir être créatif sur le droit international.
Alors pour, à chaque fois, je propose un objet. Tout simplement pour évoquer la créativité, c'est un crayon à papier avec une mine et une gomme, parce que la créativité, je me suis dit peut-être que ça commence avec une feuille blanche et un crayon. Est-ce que on utilisera toujours cet objet? Ce sera le rapport au papier, le premier pas de la créativité, ou comment ça pourrait se passer?
Ah oui, bien sûr, on va toujours utiliser du papier, parce que j'avais vu un doc super intéressant sur Arte, merci cette chaîne, qui parlait du stockage de nos informations. La durée de vie d'un disque dur aujourd'hui, c'est une petite vingtaine d'années, voire, je me trompe, je crois que je suis un peu ambitieux sur les 20 ans. C'est plutôt moins. La durée d'une photographie noir et blanc, c'est une centaine d'années. Une photo couleur, je crois que c'est 50 ans. Aujourd'hui, les moyens de stockage, on n'a pas beaucoup. Le meilleur moyen de stockage aujourd'hui, c'est le papier. Le papier, on va pas s'en passer comme ça. Et puis, je pense que c'est agréable. Un bout de papier, on le prend, on griffonne dessus, on peut écrire, on peut.
C'est rapide de passer du cerveau, l'imagination à la réalité. Tout sera pas forcément sur numérique, sur tablette.
Non. Là, le moyen de stockage, c'est aussi quelque chose qui est important, parce que comment on fait pour prévenir les générations suivantes de là où est stocké, où sont stockés nos déchets nucléaires?
Oui, j'ai lu cet article.
Comment on fait aujourd'hui? La meilleure technique, je crois que c'est une espèce de pointillé au laser dans une plaque de quartz, et ça résiste bien quelques milliers d'années. Alors déjà, tu vois, je veux juste connaître le gars qui va être capable de déchiffrer ça quand il va tomber sur en creusant pour construire sa piscine. dans 2000 ans, 3000 ans, qu'est-ce qui va se passer, comment on fait pour avoir le papier et le crayon, c'est juste génial. Après, le crayon, moi, ça me fait penser aussi en termes de créativité. Ça a été tout de suite le premier réflexe suite aux attentats l'année dernière, cette espèce de crayon cassé avec qui est taillé et qui devient deux crayons, donc deux sources de créativité. J'ai bien aimé le réflexe de, je crois que c'est du Premier ministre en Italie, qui, au lieu de mettre son budget sur la Sécu, a dit « Tiens, moi, je mets mon budget sur la culture. » Je pense pas que ce soit que de la démagogie, quoi.
À chaque fin d'entretien, je propose à mon interlocuteur de formuler un vœu pour 2050. Alors, Raphaël, j'aimerais connaître le tien. Alors, on m'a dit déjà, mais normalement, un vœu, on le garde pour soi, pour qu'il se réalise, mais là, il faut le partager avec les auditeurs du podcast.
Ça peut être un rêve un peu égoïste.
Oui, t'as le droit. Il n'y a aucune censure.
En 2050, j'aimerais bien être là pour, en pleine forme.
Pour voir
Pour voir.
Pour le monde est créatif.
Ouais, c'est ça.
D'accord.
Pour voir à quel point c'est chouette.
Ouais,
je pense qu'on vit une époque formidable et si ça pouvait durer. Après, j'ai une liste de vœux à partager. Je souhaite le meilleur pour tout le monde, toutes les structures, je peux leur souhaiter un truc.
Ouais, ouais, ouais.
Le FAT 2017, que ça se réussisse bien, que Simplon se déploie dans tout le monde entier.
Que... Il y a tous ces acteurs du jeu.
Voilà.
Donc en tout cas, ouais, être un observateur aiguisé de la créativité en
ouais, ouais, pouvoir être là, ouais, avec ma petite canne et faire « c'est trop bien
!» Merci beaucoup, Raphaël, pour cette conversation.
Merci, Rebecca. C'est génial, ton idée.
De rien. Cet épisode de Hashtag 2050, le podcast, s'achève déjà, mais on se retrouve très vite, dès la semaine prochaine, pour une nouvelle rencontre. Et d'ici là, soyons toujours curieux.